L'objectif est de repolitiser, révolutionner l'accompagnement et changer le monde.
Un projet militant.
Comment monter le volume ensemble?
On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change. Je veux que ça change. Chère accompagnante et accompagnant de Turfu, bienvenue à bord, Elsa Coteillé speaking, ton accompagnante vénère préférée, pour un nouvel épisode d'Accompagnante, le podcast qui révolutionne l'accompagnement pour changer le monde. Que cela soit en solo ou avec des intervenantes complices, ici on dit que l'accompagnement est politique et qu'on est là pour faire bouger les choses. Et on t'invite à les faire bouger avec nous et à créer une communauté engagée et fière de l'être. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. On se retrouve de l'autre côté après cette dose de power. Est-ce que tu ressens parfois que ton cabinet ne suffit plus? Est-ce que tu te demandes comment agir au-delà de tes séances, en tant qu'accompagnant, en tant qu'accompagnante, en tant que personne humaine? Est-ce que tu ressens de la colère, de la frustration, peut-être même de la rage face à la violence du système et tu ne sais pas toujours quoi en faire? Et si ta pratique, ton positionnement, tes émotions devenaient aussi des formes d'engagement? Bienvenue dans la deuxième partie de la table ronde « Laisser la justice faire son travail » enregistrée en public lors du Punchline Festival 2024 avec Camille Tisser, Aurélie Pignon, Tiphaine Daillot-Tressière et moi-même, Elsa Coutellier, membre du groupe de réflexion Hypnose et Justice créé par Camille Tisser. Je le répète parce que c'est important, cet épisode est une deuxième partie. Donc si tu n'as pas écouté la première, je t'invite vraiment à faire pause et à aller l'écouter. Elle est vraiment chouette, ça serait trop dommage de passer à côté. Dans cet épisode du jour, on partage ce que ce travail collectif a provoqué en nous. Des tilts puissants, des réajustements intimes, un cadre de liberté plus fort dans nos pratiques, un soulagement presque paradoxal au milieu de la rage encore là, et cette conviction, tout ne se joue pas dans nos cabinets. On parle de notre envie d'organiser, de fédérer, de demander des comptes à la société, de notre désir de créer nos propres formes de justice à défaut de justice avec un J majuscule. On parle aussi des lectures qui nous ont touchés, qui nous ont aidés et ce que ça a ouvert pour nous. On échange aussi sur la place des accompagnants et des accompagnantes dans les luttes, à l'intérieur ou en dehors du système. Et on échange autour de la question brûlante et si on accompagnait aussi les auteurs et les autrices de violences. Cette deuxième partie comprend aussi un échange vibrant, sincère et superbe avec le public, les personnes qui étaient là lors de l'enregistrement, où il est question de neutralité, ou plutôt de son rejet viscéral. Vous m'entendrez dire en toute simplicité que la neutralité me fait gerber, par exemple. On a aussi parlé avec les personnes présentes lors de l'enregistrement de colère, d'empathie, de limites et de plans de secours. De comment on fait quand nos émotions croisent celles de nos accompagnés, de ce que c'est que d'être touché sans être submergé et de reconnaître notre humanité dans l'acte d'accompagner. On parle aussi du choix d'assumer ou pas publiquement l'étiquette thérapeute féministe, de la peur que ça fait parfois naître chez les personnes en face et aussi en nous. On a pris aussi le temps de célébrer la beauté de rêver ensemble, en dehors des dogmes, au sein d'un collectif qui soigne aussi notre foi en l'action. Si cet épisode te plaît, te touche, t'émeut, te donne de la force, laisse une note et un avis sur tes plateformes d'écoute préférées. Partage cette table ronde autour de toi. Et si tu le peux, soutiens le podcast via la cagnotte libre. Je te mets le lien en description. Merci beaucoup aux personnes qui prennent le temps de faire tout ça. C'est hyper précieux. Ce podcast existe grâce à vous, vos écoutes, vos partages, vos élans. Alors merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Et je vous dis à très vite.
Si vraiment je devais vous poser la question sur quand même les prises de conscience, genre vraiment les ultimes prises de conscience, les titres, ou même les questionnements qui ont été les plus forts pour vous, ça serait quoi? On en a un petit peu parlé, mais si on commençait vraiment un petit peu à synthétiser, qu'est-ce qui vous vient là encore en fait quand je vous dis ça? Que ça soit sur hypnose et justice ou même sur toute l'ampleur de nos échanges.
Alors, je veux bien commencer parce que moi, c'est venu vraiment... faire écho à une valeur qui pour moi est fondamentale, qui est la valeur de liberté. Et du coup, ça a vraiment permis pour moi de reposer ce cadre pour moi en tant qu'accompagnante, en moi aussi en tant qu'humaine dans la façon dont j'ai envie de relationner avec des gens dont je sais que potentiellement ils ont vécu des choses compliquées ou pas, mais peu importe. En tout cas, dans moi, mon envie de relationner avec l'autre, ça a vraiment pu permettre de reposer un cadre de liberté que j'ai vraiment senti se répercuter dans ma pratique. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses que je m'autorise maintenant. Et vraiment, c'est, ouais, y a une forme de soulagement pour moi et voilà, de trucs qui se réalignent petit à petit. Et c'est hyper précieux.
Je me permets juste de t'interroger plus précisément. Tu l'as un petit peu nommé tout à l'heure, la notion du collectif aussi. Je sais qu'elle a pas mal bougé pour toi.
Oui, effectivement. C'est la première fois où je pose quand même, moi, j'ai un petit souci avec les relations sociales. Alors, le one-to-one me va très bien, mais le groupe, voilà. Quand Camille a proposé l'idée, honnêtement, ça n'aurait pas été Camille. Peut-être que je n'y serais pas allée. Mais parce que je connaissais déjà Camille, je savais qu'un espace créé par Camille ne pourrait être qu'un espace dans lequel je me sentirais en sécurité. Donc voilà, j'y suis allée et ça, oui, pour la première fois, je me suis dit, en fait, il y a un besoin de créer ces espaces collectifs et j'ai envie de pouvoir y voir et y créer de la douceur.
Donc, merci Aurélie.
Merci Aurélie, tu viens de me mettre les larmes aux yeux. Je suis hyper touchée par ce que tu viens de dire. Je l'avais pas compris comme ça et ça me touche vraiment beaucoup. Du coup, pour revenir à ce que je voulais dire, moi de mon côté, ces échanges-là, ils m'ont vraiment confortée dans l'idée que j'ai trop envie de creuser le sujet de justice restaurative, justice transformative, justice. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a plein de mots. Il y a vraiment pour moi quelque chose d'hyper intéressant à aller explorer dans cet endroit-là. Cette idée de alors ça peut prendre plein de formes différentes, hein, mais de faire se rencontrer des personnes qui ont été victimes et des auteurices de violence. Alors ça peut être sur tout un tas de sujets et de voir le pouvoir que ça peut avoir. Je trouve ça fantastique. Mais même au-delà de ça, de trouver en fait une autre manière d'organiser la justice. Il y a un bouquin génial qui s'appelle « En attendant qu'on se libère » de Mariam Kaba, que vraiment je vous recommande. Je le bois comme du petit lait, je le lis tranquillement parce que c'est beaucoup. Donc c'est une militante afro-états-unienne qui du coup parle de de comment en fait est-ce que les personnes noires aux États-Unis s'organisent pour fonctionner sans justice, parce qu'elle est tellement violente pour les personnes racisées que en fait ils savent que c'est pas possible d'utiliser la justice, que c'est rajouter de la violence à la violence. Donc des réflexions vraiment fascinantes, et donc ça me donne envie de vraiment aller creuser cet aspect-là. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça me donne vraiment plus envie de bosser avec la justice, en fait. Il y a notamment un diplôme universitaire de psychocriminologie à Toulouse qui m'intéresse énormément. Moi, j'ai repris les études de psycho, donc je suis encore en licence, mais j'ai très envie de pouvoir peut-être faire évoluer ma pratique vers l'accompagnement de personnes victimes. Mais pourquoi pas aussi, c'est une réflexion de personnes auteurs, auteurices. Parfois, ce sont aussi des personnes qui ont été victimes. Donc, je pense qu'il y a plein de choses vraiment passionnantes et intéressantes à aller travailler avec les personnes. Donc voilà, ça me donne vraiment envie d'aller creuser ces sujets-là encore plus. Alors, ça pose la question de est-ce qu'on essaye de faire bouger le système à l'intérieur du système ou à l'extérieur du système? J'ai pas vraiment de réponse là-dessus pour le moment. Mais il y a ce questionnement de peut-être que je pourrais essayer de faire bouger les trucs de dedans. Est-ce que ça marchera? J'en sais rien. Mais c'est toute la réflexion autour de ma reprise d'études en psychologie aussi. Donc voilà ce que vraiment nos échanges m'ont permis de vraiment asseoir.
Merci Camille. Peut-être moi avec quoi je repars. avec plein de nouvelles questions. Je pense que ce que tu as dit, Aurélie, moi, je partage totalement. Enfin, le fait d'avoir... je sais plus comment tu l'as dit toi, mais en gros, tu as parlé du mot douceur. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti là, dans cet espace, de pouvoir... c'est un endroit où on a pu se questionner, s'organiser en un sens, même si... Ouais, un espace d'organisation et d'échange qui était extrêmement doux et ça faisait vraiment beaucoup de bien. Et je pense que même si voilà, la rage, la frustration, elle est encore là, il y a aussi des choses qui se sont apaisées sur, je pense, une petite voix quand même culpabilisante qui dit toujours qu'on n'en fait pas assez et moi qui viens quand même un peu plus se taire là de bah, tranquille, ok, on est un maillon de la chaîne, mais c'est pas en effet, comme disait Camille au début... on n'est pas surpuissante et on va tout changer comme ça. Donc ça s'est calmé et ça, c'est agréable. Et je pense que ça me fait me sentir plus solide et ça me remotive pour avancer sur ces questions-là. Et c'est marrant parce que du coup, là, Camille, t'as enchaîné sur le sujet de la justice restaurative. Et je vais pas me lancer maintenant parce que ce serait tout un autre sujet, mais juste, ça me donne trop hâte qu'on continue d'échanger et peut-être qu'on parle là-dessus parce que j'ai des trucs qui sont venus là-dessus et... des personnes avec qui j'en ai discuté récemment qui ont pas mal de nuances et de critiques et je trouve que ce sera trop intéressant d'en parler. Mais c'est un autre sujet que je pose pour plus tard. Voilà. Mais je rejoins Aurélie aussi sur le fait que c'était très agréable que ce soit toi, Camille, qui lance ce groupe et que c'était un espace hyper sécure.
Ah, c'est juste une bande-annonce pour vous dire rejoignez-nous, en fait. Hein. C'est fermé. Un club qui rouvre ses portes dans quelques jours. Et donc, si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus. Moi, les prises de conscience, les titres, ou même les questionnements qui me restent, en fait, tout ça, c'est que quand même, mine de rien, oui, il y a des choses qui se sont apaisées parce que voilà, on a pu être justement dans cet espace sécure, poser des choses. Et puis, bah, donc forcément, il y a des émotions qui ont pu être nommées, partagées, reconnues. Et en même temps, c'est vrai que moi, j'ai quand même pris conscience à quel point, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Camille, peut-être qu'on a une facette, en fait, justifiée en nous. Et moi, c'est clair que j'ai bien, bien, bien senti et bien vu, en fait, à plusieurs reprises et même encore aujourd'hui. Donc, j'ai conscience, en fait, de ce besoin, cette envie de justice, mais c'est même cette notion de sens. Moi, ça rejoint énormément cette notion de sens et de non-sens, même par rapport à la vie. Vous allez me dire que je parle en mode philosophie, mais c'est un peu ce truc-là. C'est finalement quel est le sens, en fait, de tout ça. Ça rejoint la notion de rôle, de place, c'est même le rôle social. C'est quel sens, en fait, que je donne à mon accompagnement, à ma vie, à mes séances. Et donc oui, il y a des choses qui sont apaisées, il y a des choses qui sont encore en feu. Clairement, je pense que je suis pas la seule ici, et qu'il y a quand même ce besoin de justice qui est là, en fait, mine de rien, et que j'en ai très très conscience. Et maintenant, il a une certaine place, on va dire, que dans mes accompagnements, j'ai compris qu'il y avait des choses qui étaient possibles et des choses qui n'étaient pas possibles puisque on vit dans le système dans lequel on vit. Et donc il y a ce questionnement de comment faire en fait autrement ailleurs peut-être que tout se joue pas en fait au sein même de mes séances et tout se joue pas en fait au sein même de mon cabinet. Et donc ça a commencé par ce groupe en fait de réflexion bien évidemment, mais je me pose vraiment la question de comment agir au-delà finalement. Toujours peut-être à partir de cette connaissance que j'ai de ce métier, de tout ce qui s'y passe, de tous les accompagnements, et en même temps aussi tout simplement en tant que personne humaine et comment j'ai envie de vivre dans ce monde-là quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, de ce temps, de cet espace-temps de vie que j'ai dans ce monde-là. Et c'est vrai que moi, ce côté de fédérer, rassembler, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'on crée le Punchline Festival et c'est pour ça qu'on a créé cette table ronde-là. Je pense que ça faisait vraiment beaucoup sens pour moi parce que j'ai vraiment envie, en fait, que tous les accompagnants et les accompagnantes prennent la parole, en fait, sur ces sujets-là, sur ces sujets, en fait, de violence systémique, oppressive, sur les violences sexistes et sexuelles. Et qu'on raconte, en fait, haut et fort, en fait, ce qui se passe dans nos cabinets, ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est un reflet, en fait, de la violence de notre société. Et quelque part, en fait, qu'on agisse autrement que dans nos cabinets, dans nos portes fermées. Et qu'on demande des comptes, je crois, en fait. Moi, j'ai vraiment envie de demander des comptes. C'est un peu con-con, mais j'ai vraiment envie de demander des comptes, quoi. Voilà. Moi, je prépare un peu avec tout ça. Aurélie.
Je rebondis sur quelque chose qui a été dit aussi par Camille, c'est l'accompagnement des auteurs et des autrices. de violence. Parce que on a parlé de la culture du viol, parce que là, on avait beaucoup le prisme des violences sexistes et sexuelles. Et moi, un des trucs aussi qui a fait bouger mes lignes par rapport à l'accompagnement des auteurs, au début, j'étais un peu, je voulais pas y aller. J'étais pas sécure là-dessus. Et puis, c'est comme souvent dans nos métiers, hein, c'est venu à moi sans que je le cherche. Et où je me suis rendu compte qu'en fait, cette culture, elle imprègne tellement toute notre société, toute notre façon d'entrer en relation, notamment dans les relations hétérosexuelles, mais pas que, qui a vraiment besoin que pour que ça avance, ces personnes puissent avoir un espace où elles posent, où elles puissent aussi poser en sécurité et sans jugement, ce que le fait de réaliser ce qu'elles ont fait, ça a provoqué en elles et en eux, parce que sinon, on n'avancera pas. Et je pense que vraiment, cette culture sous-jacente, qui imprègne tellement les relations, elle a vraiment besoin d'être déconstruite, et ça ne peut pas, à mon sens en tout cas, mais c'est très perso, se faire sans qu'on ouvre des espaces de parole aussi pour les auteurs et autrices de violence.
Merci pour cette précision, et je trouve ça important là d'inviter toutes les personnes qui pourraient nous écouter à se poser la question, en fait, justement, de si c'est pas encore arrivé dans leur accompagnement, quelle serait leur envie, leur capacité à pouvoir accompagner justement les auteurs et autrices de violence. Moi, j'avais pas du tout préparé cette question quand c'est pareil, ça m'est tombé dessus et ça a été très 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 violent. Et moi aujourd'hui, voilà, automne 2024, aujourd'hui par exemple, moi je ne me sens pas capable en fait d'accompagner les auteurs et les autrices de violence. C'est trop pour moi. Mais ça se trouve, dans un an, 5 ans, 10 ans, ça sera en fait possible. Mais là, actuellement, en fait, c'est pas possible. Et je pense que c'est aussi important de s'autoriser, en fait, ça, qu'il y a des choses, des saisons de vie où on sent qu'on n'en est pas capable, on n'en a pas envie, en fait, tout simplement, et aussi de poser ça. Je pense qu'il y a aussi un truc un peu de rageuse, j'avoue, si je dois donner le micro à la façade de moi rageuse, c'est que je me dis, putain, si je suis une personne sexisée, qui a été victime de violences sexistes et sexuelles, et ça me fait vraiment chier de aussi m'occuper en fait d'auteur ou d'autrice en fait de violences sexistes et sexuelles, et surtout quand je vois que dans l'espace public il y a énormément d'accompagnants qui prennent la parole sur plein de sujets pour montrer à quel point justement ils sont super forts, et que sur ces sujets-là il y a personne et il y a surtout pas en fait d'accompagnants, et en fait ça me saoule de faire leur taf à leur place, quoi. Donc j'aimerais vraiment en fait que les accompagnants puissent faire le taf en fait aussi auprès des auteurs et autrices de violences sexistes et sexuelles, quoi. Et des autres, bien évidemment. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Je sais pas, Camille et Tiffaine, comment ça résonne pour vous ? Et où est-ce que vous en êtes ?
Moi, comme toi, Elsa, moi je me sens... La question des auteurs et autrices, c'est une question... Ouais, hyper vaste, et moi, en tout cas, je me sens pas d'accompagner pour l'instant, et on verra ce que la vie nous réserve aussi. Mais moi, je me... pareil, à l'heure actuelle, je me sens pas du tout d'avoir cette position, moi, et je trouve que moi aussi, en tant que victime, il y a des choses qui sont encore trop saillantes pour que je me retrouve dans cette position-là.
Moi, de mon côté, c'est pas aussi tranché. J'ai accompagné là, cette année un homme auteur de violences sexuelles, et j'ai beaucoup aimé cet accompagnement-là. Ça m'a fait beaucoup bouger. Ça a été hyper intéressant en fait, tous les questionnements en fait que c'est venu soulever en moi. J'ai beaucoup apprécié cet accompagnement, contrairement à ce que j'aurais imaginé avant de l'avoir dans mes séances. Peut-être que ça dépend de la personne, ça dépend aussi dans quel objectif est-ce que la personne vient. C'était quelqu'un, c'est quelqu'un que je sens hyper sincère dans sa démarche. Donc moi, a priori, pour le moment, je suis partante pour les accompagner.
Très bien. Je pense que c'est important que les personnes elles entendent différents cheminements, différents points de vue. En fait, comme d'hab, en fait, tout est possible. Il faut juste vous poser en fait la question pour vous.
Si, il y avait un truc que je voulais préciser, ouais. Pardon, Elsa. C'est qu'en fait, je me dis, bon, ça va peut-être sonner hyper prétentieux ce que je vais dire, mais je crois que je préfère qu'un auteur vienne voir une accompagnante féministe qu'il aille voir un masque de bad, en fait, aussi. Je pense qu'il y a de ça. Du coup, je me dis, voilà, ce sera inconfortable pour moi parce que, bah, évidemment, comme beaucoup de personnes, moi aussi, j'ai été victime de violences sexistes, surtout sexuelles. Oui, forcément, ça vient déclencher des trucs en moi forts. Mine de rien, je me dis, bah, je trouve que la démarche venant de la personne, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui m'avait contacté en me disant, voilà, j'ai conscience que je suis merdique et j'ai envie de le bosser avec, avec une féministe parce que je sais qu'avec un autre gars, ça ira dans mon sens. Bon, finalement, il est pas venu en séance. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, mais je trouvais que la démarche était cool de se dire, je vais me faire secouer les puces. Mais comme dans la démarche d'aller dans la pilule rouge, par exemple, en tant qu'accompagnante pour décoloniser notre pratique, on sait qu'en tant que personne blanche, ça va être vraiment inconfortable. Mais si je vais me former auprès d'une personne blanche pour apprendre à décoloniser ma pratique, ça n'a pas de sens, en fait, de mon point de vue. Donc voilà, c'est aussi cette réflexion-là qu'il y a derrière.
Top, merci Camille. Stéphane, tu voulais dire quelque chose ? Je voulais faire sur la question de la prise en charge des auteurs quand on est thérapeute féministe. Je voulais juste faire un mini avertissement, pas pour rendre tout le monde parano, mais parce que je pense que c'est important d'avoir des notions d'autodéfense sur ces sujets, parce que moi j'ai des témoignages de collègues, de mecs qui viennent les voir et qui en fait sont des personnes très manipulateurs et qui se sont retrouvés dans des positions très vulnérabilisantes et très compliquées, et c'est pas du tout tout le monde et ça arrive pas tout le temps, mais je trouve juste de le savoir et de se dire dans ces moments juste ça peut arriver, donc qu'est-ce que je fais si ça se passe, et de pouvoir se tourner vers d'autres gens, je trouve que c'est important, et de juste le rappeler, de pouvoir se protéger et de savoir que voilà, on peut demander de l'aide dans ces moments.
Carrément important. Merci Stéphane pour le rappel. Aurélie ?
Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, Stéphane, je pense que c'est très important, comme tu disais aussi, Elsa, de prendre soin de sa propre santé mentale, de réfléchir à l'endroit où on en est et à ce qu'on se sent prêt de faire et à poser le cadre. Moi, c'est quelque chose que je pose quand j'accompagne des auteurs. C'est-à-dire, je pose que j'ai moi-même été victime de violence et que je ne suis pas neutre par rapport à ça. Et que si parfois je dois les confronter à des schémas de pensée, à des choses, je vais pas, pour le coup, je vais pas forcément y aller dans la douceur, quoi. Et qu'il faut qu'ils soient OK avec ce cadre-là avant de travailler avec moi, parce que la flexibilité pour moi c'est hyper important dans mon cadre de travail, mais pas à cet endroit-là. Quand j'accompagne les auteurs, je me sécurise avant tout, et ça c'est vraiment quelque chose que je pose, et c'est soit ils sont prêts à accepter ces conditions-là, soit ils vont travailler ailleurs.
Top, merci. Merci pour votre précision, de nous donner un peu un regard sur comment ça se passe pour toi. C'est tout ce qu'on est en train de dire, ça sonne presque comme des derniers messages clés, mais on va vraiment en fait aller sur la notion de message clé pour la conclusion. Chacune, si vous aviez encore quelque chose à dire, vraiment un truc à poser ou une conclusion, voilà, vous aimeriez conclure comment là, tout notre échange d'aujourd'hui.
Moi, du coup, j'ai fait passer mon message clé tout à l'heure, qui était si vous avez envie d'explorer un sujet, explorez-le. Du coup, entre-temps, je suis allée chercher le livre dont je vous ai parlé, donc En attendant qu'on se libère vers une justice sans police ni prison. L'éditrice Marie Herman qui cite une autrice, donc Rachida Brahim, et j'ai bien envie de vous lire ce mini passage qui dit « Le silence du dit pays est inéluctable car la bête qui vous mord ne peut être une bête qui vous répare. Les lois qui administrent, différencient, placent et rendent possible la morsure ne viendront pas suturer la morsure. Et quand bien même elles sauraient réparer ici, elles déchirent ailleurs. » Voilà.
Drop the mic. Trop bien. Merci Camille. Stéphane, Aurélie, votre conclusion à vous. Moi, peut-être que en conclusion, j'aurais envie de dire que oui, en tant qu'accompagnante, on peut pas avoir toutes les places, mais venez, on réfléchit quand même à notre place et le faire ensemble et en douceur, c'est trop bien. Et on avance, quoi. Donc, merci à vous toutes.
Merci, Tiffaine.
Aurélie?
Je suis assez d'accord avec ça, Tiffaine. C'est venez, quoi. Venez qu'on en parle. Déjà qu'on en parle, quoi. Déjà qu'on reste pas tout seul, toute seule dans notre coin, avec nos questionnements, avec tout ça, quoi. Venez qu'on en parle et qu'on réfléchisse ensemble. Venez les accompagnantes, venez les accompagnants. Tu parlais tout à l'heure du côté rageuse de pas vouloir faire le taf des accompagnants à leur place, mais moi, il y a un truc que j'ai vraiment envie de dire aux accompagnants, quoi. Votre taf, là, maintenant, c'est de vous sensibiliser. Si vous pouvez plus faire semblant, les gars, de dire non, mais moi, dans mon cabinet, c'est un problème qui se pose pas, moi, j'accompagne pas les violences sexuelles. Bah, si vous faites ça, honnêtement, sortez votre tête de votre... Et voilà, parce que c'est pas possible. Donc, vraiment, venez. Venez réfléchir à tout ça.
Trop bien. C'est bien. On a eu l'appel de Camille, maintenant on a l'appel d'Aurélie. Je kiffe. Et même l'appel de Tiffany pour tout à l'heure. Mais ouais, bah, c'est vraiment tout ça. Moi, ça me. Ouais, dernier message, mais pour la conclusion, c'est. Ouais, c'est venez. C'est marrant parce que quand tu disais les accompagnants, sensibilisez-vous. Moi, j'ai pas l'image d'une sensibilité, quoi. Là, j'ai envie que ça soit une hémorragie, quoi. J'ai envie que. Voilà, c'est pas juste sensible, quoi. C'est venez dans l'hémorragie de ce qui est vraiment là, quoi. Et vraiment, c'est vrai que finalement, le message clé pour moi, la conclusion aussi, c'est, je crois qu'on a collectivement, individuellement et collectivement, un deuil à faire concernant la justice telle qu'on l'imaginait, telle qu'on l'imagine encore, telle qu'on l'a internalisée. Je pense que c'est vraiment ça. Et je pense que ça se relie quand même à un truc beaucoup plus large pour moi, c'est qu'il y a aussi peut-être des deuils à faire aussi autour des notions de bien et de mal. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi important de poser ça quelque part. Et donc pour ça, en fait, à nouveau, c'est pas la question des outils d'accompagnement, c'est plutôt la question de la réflexivité et que c'est ce que je dis souvent que pour moi, finalement, l'avenir du bien-être, l'avenir de nos professions, c'est l'avenir de la société tout entière, c'est les sciences sociales. C'est vraiment c'est pas les outils en fait en tant que tels, c'est vraiment les sciences sociales, quoi. Moi, vraiment, c'est notre avenir à tous et à toutes, quoi. Voilà. Donc, on arrive donc à la fin de cette table ronde. Et donc, là, c'est le moment qu'on va vous proposer. C'est le moment, en fait, de rouvrir vos micros, de prendre vos claviers pour que vous puissiez réagir avec ce qui a résonné pour vous. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Voilà, on a encore du temps pour pouvoir en fait vous écouter et vous accueillir dans vos réflexions, résonances et questionnements. C'est à vous.
Oui, bonjour. Ah, pardon. Vas-y, Swan.
Vas-y. Non, vas-y.
Déjà, merci pour toute cette force parce que ça donne beaucoup de baume au cœur aussi de vous entendre. Voilà, du coup, moi, je suis juste pour résumer, accompagnante en hypnose depuis aussi 3 ans. Il y a quelque chose, j'ai noté plein de choses hein, en soi, donc j'aurais vraiment beaucoup de questions, peut-être individuellement. Il y a vraiment quelque chose que tu as dit, Elsa, au tout début de la table ronde. C'était de mettre, tu disais que tu avais un accompagnement non neutre. Et que tu mettais ta colère au service de tes accompagnés. Et du coup, là, tout le long de la discussion, j'ai vraiment fait un lien de, finalement, en tant que aussi victime et accompagnante, par rapport aux émotions qu'on peut ressentir et comment ça peut être, justement, mis au service et pas desservir. C'est peut-être pas assez précis, mais en tout cas, je suis assez impressionnée de comment on peut mettre nos propres émotions au service aussi de l'accompagnement. Parce que moi, je sais que parfois, je suis submergée et du coup, ça me crée un peu des blocages aussi dans mince, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, comment j'accompagne l'autre. Alors, en effet, ça renvoie à un travail sur soi. Mais aussi, bah, comment ne pas se faire déborder par ça. Voilà. En tout cas, c'est pas hyper précis, mais je trouve ça assez intéressant. Enfin, ça va cheminer en moi, mais bah voilà, comment on met toute cette colère et puis même peut-être autres émotions pour accompagner et voilà. Donc je sais pas, c'est très précis, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant comme notion, voilà, qui me donne une clé.
Merci Anne-Laure pour ta question. Moi, c'est un sujet passion là. Ce que tu poses là, je pourrais faire une conférence de 2 heures sans souci. Je vais répondre moi à ma sauce à moi et après je laisserai Tiffany et Aurélie et Camille aussi répondre parce que c'est des notions sur lesquelles on a aussi partagé. Moi j'ai déjà fait un épisode solo sur les émotions de l'accompagnant et de l'accompagnante. Peut-être que tu pourras peut-être entendre des choses en complément de ce qui me vient là à chaud. Je trouve que c'est hyper intéressant en fait quand tu parles de comment ne pas se faire déborder par ça et je pense qu'il y a c'est important de faire la différence entre être touché par ce qui se passe en fait en session ou sur un accompagnement et être affecté. Je pense que déjà ça peut être une clé pour distinguer là où tu sens que il y a un truc qui va pas, qui est pas à sa place quoi. Et dans le sens où pour moi toucher c'est la personne humaine que je suis en fait qui est en résonance et qui est émue et c'est l'empathie finalement, c'est vraiment ça. Et ce qui est d'ailleurs en fait ce qui est souvent notre rôle hein, les personnes en fait dans aujourd'hui en fait en 2024 quand elles viennent en fait chercher un accompagnement souvent c'est qu'elles viennent chercher de l'empathie, ça faut être quand même en fait être clair avec ça. Et donc c'est hyper important de se laisser être touché et c'est pour ça que en fait la neutralité moi me fait gerber. Voilà pour dire les choses cash. Il y a des accompagnants et des accompagnantes mais surtout des accompagnants qui sont pas du tout d'accord avec ce que je suis en train de dire. Que justement la neutralité, le fait de ne pas être touché, même ni m'a touché en fait par quelque chose en fait qui se passe en session, c'est en fait un critère de professionnalisme. Moi c'est tout le contraire. Moi je dis exactement le contraire. Que pour moi en fait être touché, c'est en fait un critère de professionnalisme. Donc c'est aussi toi que tu sois au clair avec qu'est-ce que ça peut être en fait finalement être professionnel ou non professionnel et que tu poses en fait tes critères à toi. Donc tu vois il y a déjà ces deux clés là, c'est faire la différence entre touché et affecté. Affecté, c'est vraiment quand tu sens qu'il y a justement ce débordement, ce côté submergé. Et ça, c'est aussi à travailler en amont de quel plan de secours, entre guillemets, je peux préparer quand je sens que je suis submergée. Et là, c'est toute la préparation en amont de ce qu'on appelle la posture de sécurité quand t'accompagnes. Donc ça, c'est à travailler en amont. Mais c'est aussi toutes les phrases clés que tu peux donner à la personne pour dire là, en fait, c'est pas possible ou je peux pas. Ou c'est, voilà. C'est aussi préparer en fait ces éléments-là. En se disant que de toute manière ça arrivera. L'objectif c'est pas forcément que ça n'arrive pas. Ça aussi c'est notre clé, c'est que ça peut arriver. Donc l'objectif c'est pas forcément que ça n'arrive jamais, parce qu'en fait t'es une personne humaine et que tu sais. En fait on fait quand même un métier assez bizarre. Hein. Quand on rencontre une nouvelle personne, on n'est jamais très au clair avec ce qui va se passer en fait en session, même quand c'est une personne qu'on a rencontrée en fait plusieurs fois. Alors d'autant plus quand c'est une personne qu'on rencontre en fait pour la première fois. Donc t'es une personne humaine et de remettre en fait aussi cette humanité là au centre. Et te dire que ça se trouve, ça va arriver, ça arrivera sûrement. C'est aussi travailler en fait avec ta propre humanité. Je pense que c'est hyper important. Et donc ça, globalement, sinon pour l'accompagnement neutre et la colère en fait au service de mes accompagnés et mes émotions en fait au service de mes accompagnés, c'est ce que je disais au tout début, c'est la notion d'empathie et de reliance en fait. Ça vraiment, je vais essayer de faire court parce que je pourrais en parler des heures, mais. Moi, dans ma philosophie de travail aujourd'hui, je me rends compte à quel point ce que les personnes en fait viennent chercher auprès de moi, c'est de se réhumaniser, parce qu'elles ont été quelque part déshumanisées dans le processus, que ça soit le trauma ou déshumanisées en fait dans une expérience en fait qui a été difficile, et qu'il y a une déshumanisation en fait de la société, mais qu'il y a aussi une déshumanisation des personnes en fait par rapport à elles-mêmes. Quand je dis déshumaniser, c'est j'ai pas le droit de ressentir ça, il y a toujours pire, j'aurais dû réussir, j'aurais dû traverser, j'aurais dû faire autrement. J'ai un problème, voilà. Ça, tout ça, c'est pour moi, tous les discours en fait de déshumanisation. Et donc, le fait d'être touché par ce qui se passe et par leur vécu, en fait, j'utilise mon humanité. Finalement, quand je parle des émotions, quand je parle de mon non neutre et de ma révolte, en fait, j'utilise mon humanité pour les aider en fait à se réhumaniser. C'est un processus en fait de reliance et de réhumanisation. Donc, d'avoir tout ça, c'est de voir comment tu peux décortiquer toi en fait tous ces éléments, comment tu te positionnes. J'espère que ça t'aide. Je pourrais en parler des heures, au plaisir d'échanger à nouveau là-dessus quand tu veux. Camille, vas-y, je te laisse le micro.
Oui, pour parler moi de ma pratique, ça arrive régulièrement que les personnes partagent quelque chose qui vient qui vient me toucher. Là, dernièrement, il y a quelqu'un qui a prononcé une phrase de quelque chose que je pense, mais que je m'étais jamais dit à moi-même. Et là, à ce moment-là, j'ai senti que c'était plus que d'habitude, que ça venait plus me chercher et que c'était plus difficile d'être vraiment connectée à la personne à ce moment-là, parce que à ce moment-là, il y a l'émotion qui monte de se dire « Ah merde, ah ouais, il y a ce truc-là. » On parlait de sexualité à ce moment-là. Et du coup, moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que déjà, je le pose. Parce que, pas rêver, même si je bosse en visio, la personne, on le sent quand on dit quelque chose qui vient toucher la personne en face. Donc, pour qu'il n'y ait pas de tabou, pas de non-dit. Et puis, dans cette idée de cette posture, en fait, féministe qui est « on est là d'humain à humaine », j'ai pas tout compris à la vie. Moi aussi, j'ai des sujets, je galère. Mais j'ai des outils à te mettre à disposition et on peut tenter des trucs ensemble. Dans cette idée-là de me montrer aussi en tant qu'humaine pour aider la personne à se sentir humain aussi, je le pose. Et je m'efforce plus que d'habitude à poser des questions pour être sûre que ce que moi je vis, je me dis pas bah, c'est forcément ça qu'elle a voulu dire. Et donc, là par exemple dans cette situation-là, j'ai dit voilà ce que tu as dit, ça me touche particulièrement, je sens qu'il y a une émotion qui vient parce que c'est quelque chose que je pense. Mais par contre, j'ai besoin d'en savoir plus sur toi, qu'est-ce que tu mets derrière pour être sûre que ce que moi, je pense, que je projette pas, en fait, moi, ma vie sur toi. Et donc, voilà, je m'efforce à poser encore plus de questions que d'habitude dans ces moments-là pour vraiment arriver à faire la distinction entre l'autre et moi. Voilà. Ce qui me vient à ta question.
Je rebondis aussi, bon, comme d'hab, je suis d'accord avec Camille, mais c'est une donnée, c'est établi. Mais effectivement, accueillir l'émotion, pour moi, c'est congruent. C'est-à-dire que c'est quelque chose aussi que j'amène les personnes que j'accompagne à faire. Et pour moi, il y aurait une forme d'incongruence à rejeter les miennes. Alors, dans une certaine mesure, et comme le dit Camille, en faisant attention à la projection, et on parlait du trauma, notamment lorsque j'accompagne des personnes qui ont vécu des traumas que j'ai moi-même vécu, ça m'arrive justement de poser le fait que ça me touche, que ça résonne, et de poser que je vais amener peut-être plus de questionnements pour m'assurer de ne pas prendre le lead sur quelque chose qui ne m'appartient absolument pas et de ne pas trop amener à la personne que j'accompagne de choses qui ne lui appartiennent absolument pas. Donc il y a cet équilibre à trouver, mais pour moi c'est congruent, l'accueil des émotions, voilà. Les miennes, celles de la personne en face, et parfois moi je dis aux gens la non-neutralité, pour moi elle est sociétale, elle est systémique, elle est politique, mais elle est aussi émotionnelle. Parfois, je dis aux gens, mais putain, ce que vous m'amenez là, ça me fout la rage, quoi. Ça me fout la rage. Et ou parfois, je dis, bah voilà, ça m'attriste, ça me touche, ça m'émeut, ça, voilà. Mais c'est OK. C'est OK. Et Elsa, tu parlais du travail en amont de préparation, de sécurisation. Il y a un travail en amont et il y a aussi un travail possible en aval. Et je pense que c'est très important, la supervision. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais sur ces sujets-là, particulièrement la supervision, alors qu'elle soit individuelle ou collective, hein, les deux existent et je pense que ça dépend des préférences de chacun, chacune. Mais la supervision, elle est essentielle parce qu'effectivement, il y a forcément des choses qui vont venir nous cogner et il faut avoir aussi pour nous, pour notre bien-être et pour pouvoir continuer à faire ce travail-là comme on a envie de le faire, un espace où on puisse aussi travailler ça.
Peut-être j'ai envie d'ajouter un petit truc. Bah déjà, je suis d'accord avec tout ce qu'on dit Elsa, Camille, Aurélie. Je trouve que c'est une question qui est hyper importante, voilà, qui l'est pour moi aussi. Je vais aussi sur le fait que pour moi, la verbalisation, elle est importante et qu'en fait, ça peut être tellement thérapeutique de partager ses émotions que franchement, let's go. Et après, sur la question d'être dépassée ou touchée, bon, je sais pas ce que tu as dit, affectée ou touchée, Elsa, je pense que, enfin, moi, un truc que je me dis en ce moment et sur lequel je travaille et que je trouve qui n'est pas facile, en effet, c'est d'accepter que, bon, alors, si on est dépassé à une séance, on peut le gérer, le dire, de séance, voilà, en faire quelque chose, mais que si on est trop dépassé par un accompagnement, on peut l'arrêter et qu'on a le droit de le dire. Et que ça, je trouve que c'est pas facile, moi, enfin, pour moi non plus, c'est pas facile, mais que, bah, il y a des fois, il y a des choses qu'on peut pas accompagner parce que pour l'instant, c'est trop dur, et peut-être que toujours ce sera trop dur, ou qu'il y a des résonances avec les personnalités qui font que c'est trop compliqué, et que c'est OK. Et je le dis pour moi aussi, dans cet espace. Et peut-être aussi un truc que j'ai envie de partager de moi, les évolutions de ces derniers temps, de mes questionnements, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, je me sentais à l'aise de partager mes émotions quand elles arrivaient, de pouvoir en parler avec les personnes que j'accompagne, mais j'avais beaucoup de mal à les laisser transparaître. Et notamment, j'avais la question des pleurs, qui était une vraie question pour moi, parce que je me disais, punaise, mais je m'autorisais pas, des fois, quand les larmes montaient, à laisser des larmes couler, parce que je me disais que ce serait... J'aurais l'impression de perdre ma contenance et que ce serait pas sécurisant pour la personne en face. Et depuis quelques temps, timidement, je me suis autorisée dans des moments où ça me semblait adapté, à me laisser sortir des émotions, pleurer des fois devant certaines personnes parce que c'était super touchant pour moi. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper libérateur pour moi parce que ça me permettait d'être plus là pour la personne parce que mes émotions, j'étais pas en train de les bloquer. Et du coup, je pouvais les laisser sortir et être plus concentrée sur l'autre. Du coup, en fait, c'était plutôt une ouverture vers la personne en face et que c'était souvent pris de manière très positive et que ça fait du bien de voir que la personne en face, comme les autres ont dit, est humaine et empathique et que ça peut être aussi réparateur pour nous accompagner. Voilà pour ce que je voulais ajouter.
Vas-y, Kim. Oui, un dernier truc, en entendant Tiffaine parler. Moi, c'est quelque chose que je pose dans mon cadre, en fait, dès le départ. Je parle des émotions en disant que dans cet espace, il y a de la place pour toutes les émotions, de la plus cool à la plus taboue, que tout est bienvenu. Et j'en profite pour dire, et quand je parle des émotions, je parle aussi des miennes. Je vous préviens, ça peut m'arriver d'être super en colère, ça peut m'arriver d'être touchée, d'avoir les larmes aux yeux, de pleurer. Mais à aucun moment, l'objectif, c'est que la séance se tourne vers moi et que je devienne le sujet. Mais plus pour aussi être un miroir, en fait, finalement. Pourquoi est-ce que ce serait la neutralité qui serait un miroir et pourquoi est-ce que ce serait pas les émotions, justement, qui seraient de dire « Ah bah tiens, quand je lui raconte tel truc, elle est super vénère alors que moi, pas du tout. Pourquoi je le suis pas ?» Et du coup, je trouve que ça amène une conversation aussi hyper intéressante avec la personne. Donc voilà, c'est aussi dans cet objectif-là. Et je le pose dès le départ et je demande aux personnes si elles sont OK ou pas. Et franchement, jusqu'à présent, jamais personne m'a dit « Ah non, mais moi, je veux pas quelqu'un qui m'accompagne avec des émotions. » Tout le monde est là genre « Oui, yes, please, j'en peux plus, en fait, des séances où la personne, elle fait semblant de rien ressentir en face. » Donc, voilà.
Comment tu te sens, Anne-Laure, avec tout ça ?
C'est très juste parce que je pense que ça fait aussi écho à des choses personnelles aussi. Et donc, dans mon accompagnement, en tout cas, je vois le miroir de... par rapport à les émotions et les émotions de l'autre et comment... Enfin, voilà. C'est tout un truc que je travaille d'ailleurs en supervision. Mais oui. Mais en tout cas, sur des sujets aussi forts... Enfin, moi, je sais que c'est tellement une valeur pour moi, l'injustice, qu'en fait, des fois, je me fais happer par mes propres émotions. Et donc, c'est vraiment le cadre et comment être avec l'autre, avec ses émotions. Mais ça... C'est vraiment une danse qui, parfois, peut être un peu, difficile, on va dire, pour moi. Mais en tout cas, j'ai déjà plein de clés et de parler de ces émotions, ces choses que je fais pas. Donc, je pense que je vais expérimenter cela. Merci, en tout cas, pour vos guides.
Avec plaisir. Avec plaisir. Swan, t'avais quelque chose, je crois, tout à l'heure.
Moi, je me posais la question du fait de se revendiquer comme féministe, de poser le mot, en fait, et de se présenter comme ça. J'imagine qu'on vous pose tout le temps, puisque vous, visiblement, vous avez décidé de le faire. Et moi, c'est une interrogation permanente depuis que j'ai commencé à accompagner des gens. Et du coup, j'étais pas sûre d'avoir bien compris ce que Tiffaine, toi, tu disais, quand tu disais qu'il faut faire attention à pas se trouver dans une situation où on se fait manipuler. Et je suis pas sûre, enfin, je veux bien que tu reviennes là-dessus pour comprendre ce que t'as voulu dire. Et de manière générale, pour tout le monde, comment est-ce que vous articulez ce fait de dire, bah, OK, à partir de maintenant, je vais le dire, en fait. Enfin, je vais mettre des mots dessus. Parce que moi, en séance, pour l'instant, donc, au-delà du fait que je ne l'écris pas sur mon site, même si les gens qui savent, enfin, il y a des petits indices. mais j'ai décidé de pas le faire et de pas toujours utiliser les mots, du militantisme pour pas, c'est rare que je dise, par exemple, culture du viol dans une séance. Et pourtant, c'est de ça qu'on est en train de parler. Mais ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous faites, en fait, parce que je me dis, il y a des gens qui, on le voit bien, il y a des réactions épidermiques avec certains mots et j'ai l'impression qu'on peut perdre les gens aussi, notamment les hommes cis, mais pas que, au moment où on essaie de leur faire articuler un truc. Et si on met ce mot-là, j'ai l'impression qu'il y a des fois où les gens vont être en mode, OK, bon, c'est une wokiste, j'y retourne pas parce qu'elle va m'embrigader. Et en fait, moi, comme je sens que j'ai une petite ficelle, j'ai surtout pas envie qu'ils arrêtent, j'ai envie de dire. Je vais pas mettre les mots, mais je veux mettre les idées dans ta tête. Enfin, bien sûr que je suis pas là pour manipuler les gens, on est bien d'accord, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'aimerais bien vous entendre réagir là-dessus.
Peut-être je peux commencer par juste éclaircir la question que tu avais. Quand je parlais de manipulation, alors déjà, je parlais très précisément des hommes auteurs de violences qui viennent en séance. Je pense que, du coup, c'est un avertissement que j'avais envie de donner. Mais pour, de manière générale, les personnes qui accompagnent des auteurs de violences, et je pense d'autant plus les personnes qui ont l'étiquette féministe, parce que juste moi, j'ai eu des témoignages de collègues, d'hommes qui viennent commencer une thérapie, mais qui annoncent pas forcément la couleur, soi-disant pour déconstruire leur masculinité ou je sais pas quoi, et petit à petit, ont compris que ces hommes-là étaient des auteurs de violences et étaient en train de mettre en place un rapport de pouvoir avec elles et de les manipuler. Et je pense que quand on a l'étiquette féministe, eh ben, on peut, alors je veux vraiment pas rentrer dans la parano, mais on peut être des cibles pour ce type de personnes. Alors, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Je pense que c'est pas, je sais pas à quel point c'est fréquent et je pense pas que ce soit fréquent, mais j'avais envie de le dire parce que ça peut arriver et que je pense que si ça nous arrive, c'est bien de savoir que ça peut arriver. Donc c'était dans ce sens-là, et peut-être du coup je peux enchaîner aussi sur le reste de la question. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, que toi stratégiquement, en fait, ta stratégie c'est de dire je me dis pas féministe, mais ça me permet d'aller insuffler des choses à des personnes où si je me disais féministe, ils viendraient pas me voir. Moi, je pense que à titre personnel, ma stratégie, c'est que justement, j'ai envie d'être la psy des wokistes. C'est que j'ai envie d'être la psy des meufs et des personnes de manière générale qui sont en PLS, qui vont voir des thérapeutes qui peuvent être violents et violentes dans leur manière d'accompagner. Et du coup, on parlait d'un refuge, d'être un refuge clair. Et du coup, et comme on n'est pas énormément, mais en fait, on est énormément de personnes à chercher des thérapeutes qui ont cette étiquette claire pour se sentir en sécurité, et que moi, c'est aussi qui tu choisis d'accompagner, je pense, et que moi, j'ai envie d'accompagner des personnes, en fait, qui sont déjà féministes et qui ont les mêmes valeurs que moi et qui cherchent ce refuge-là. Et alors, c'est sûr que peut-être que si tous les thérapeutes avaient cette étiquette-là, ça poserait des questions de stratégie, mais comme on n'est pas beaucoup au final et qu'il y a une demande très importante, pour moi, voilà, la question, elle se pose sur ce plan. Je vais laisser les autres compléter.
Alors, moi, j'ai eu pas mal de réactions quand j'ai commencé à me positionner, notamment sur les réseaux. Moins en séance, j'ai moins eu, ça m'est arrivé une fois, le côté un peu provocateur en séance, genre attends, je vais t'apprendre la vie, quoi. Donc là, bon, autant te dire quand c'est amusé pendant une heure, quand même. Mais par contre, les réactions, les DM un peu virulents, ça j'ai eu et j'en ai encore, que ce soit sur mon compte de thérapeute, mais aussi sur le compte de l'asso dont je suis présidente. Moi, j'ai quand même un truc aussi avec la psychoéducation, avec l'éducation en général. J'ai été enseignante pendant 20 ans, donc pour moi aussi, amener les gens à réfléchir à ce qu'eux mettent derrière des mots. J'ai des clients qui me disent « Ouais, mais vous êtes woke. » Ok, donc c'est quoi pour vous? Et donc après, je ramène à la définition. Et moi, je le pose, je dis, à partir du moment où on vit dans une société ou s'insurger contre les oppressions, contre les violences systémiques, c'est devenu une insulte, je pense que vraiment, individuellement et collectivement, il faut quand même qu'on s'interroge, les gars. Quoi. Donc, si vous considérez que c'est une insulte, moi, je le prends plutôt comme un compliment. Après, moi, en fait, c'est pas une cellule de prison. Vous voulez pas continuer à travailler avec moi, vous continuez pas à travailler avec moi. J'ai pas de problème avec ça, quoi. Donc ça, moi, c'est un positionnement que je prends vraiment très clairement. Et je trouve que c'est important aussi d'ouvrir ces espaces de réflexion. Et c'est l'importance de poser les mots sur les choses. C'est un sujet qu'on avait un petit peu en aparté avant de commencer l'enregistrement. Sur l'importance justement de s'autoriser à poser des mots, parce qu'à force de tourner autour des trucs, il y a trop de sujets dont on ne discute pas, et pour moi, c'est quand même vachement important. Moi, depuis que ce positionnement, il est clairement affiché, je vois aussi que je travaille beaucoup plus avec des gens avec qui je prends vraiment énormément de plaisir à bosser, quoi. Et ça, c'est quand même un sacré kiff. Voilà.
Je voulais rebondir du coup aussi. D'abord sur la première chose concernant les personnes qui peuvent être manipulatrices. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais encore à Lyon, donc ça fait plus d'un an et demi, d'accompagner une personne avec qui j'étais extrêmement mal à l'aise. En fait, dans son attitude, c'était un homme qui me mettait vraiment en difficulté. Je le voyais avant la séance. Quand je savais que j'avais rendez-vous avec lui, j'y pensais toute la journée. Ça me polluait même les autres séances. Et en fait, au bout d'un moment, du coup, à ce moment-là, j'en avais parlé avec ma psy et qui m'avait dit, mais en fait, vous avez complètement le droit d'arrêter parce qu'en plus, vous mettez potentiellement en insécurité d'autres personnes que vous accompagnez parce que vous n'êtes pas pleinement là pendant la séance. Donc voilà, à partir du moment où il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et donc, je pense que ça vaut le coup de s'autoriser. C'était hyper inconfortable d'arrêter cet accompagnement, mais salvateur pour moi et mes autres accompagnés aussi, je pense. Et puis pour lui en plus, parce qu'en plus, je pense que j'étais vraiment la mauvaise personne pour l'aider sur son sujet parce que j'étais pas pleinement là, j'étais pas tranquille. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que c'était dans le cadre d'une manipulation? Je saurais pas trop dire. J'ai un petit avis sur la question, mais en réalité, je ne saurais jamais. Et ça me va, c'est pas ça. Ça, c'est la première chose. Et je plus sois ce qu'a dit Tiffaine. Moi, j'ai vraiment envie de bosser avec les wookistes, en fait, aussi. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Et en fait, j'ai démarré mon activité en me positionnant tout de suite comme féministe. Donc, du coup, j'ai pas eu l'expérience de qu'est-ce que c'était de pas l'être dans cet espace-là. Et dans le chat, Aurélie dit vive le lobbying woke. Oui, bien sûr, lobby LGBT aussi. Et donc, du coup, tout de suite, je savais que les personnes avec qui je voulais travailler, c'était des personnes qui vivent des violences au sein de cabinets d'accompagnement, en fait. Trop partante pour qu'il y ait... Enfin, j'adore l'idée qu'il y ait des personnes qui le soient en soum-soum, quoi. En sous-marin, qu'il y ait d'autres alliés, d'autres personnes féministes, queer, qui ne le revendiquent pas, mais qui viennent tranquillement saupoudrer, en fait, des accompagnements de ces idées-là. C'est trop cool. Tout le monde, comme tu disais, Tiffaine, je ne suis pas sûre que tout le monde a... soit obligé de le crier sur tous les toits. Moi, je ne pouvais pas faire autrement. En fait, ça ne m'intéressait pas de le faire autrement, mais ça parle que de moi, de mon vécu, de ce qui est important pour moi. Mais je peux complètement entendre l'envie de pas forcément le revendiquer, pouvoir bosser avec tout le monde, parce que clairement, moi, des mecs cis, j'en ai pas beaucoup accompagné, quoi. Si j'ai dû en avoir... Je sais pas, sur 3 ans et demi, je dois être à 1000 séances. Si j'ai fait... 50 séances avec des hommes cis, c'est max, quoi. Donc, et pourtant, c'est des gens que j'aime bien. J'ai plein d'amis hommes cis. Mon meilleur ami est un homme cis. Donc, je veux dire, j'ai pas de problème avec eux particulièrement. J'aimerais beaucoup les accompagner, mais ils viennent pas. Donc, tant pis, ils vont voir peut-être, et j'espère, d'autres personnes. Et trop cool si c'est des personnes qui ont aussi ces valeurs-là, quoi. Voilà. Pas d'injonction, en fait. venez, on se met pas à nouveau des injonctions dans cet endroit-là, on fait ce qu'on veut, quoi. Merde.
Et juste pour réagir, c'est vrai que du coup, j'ai pas précisé que moi, je suis sexologue et que du coup, j'ai pas du tout le même genre de personnes qui viennent me voir. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Et que du coup, moi, j'ai la moitié des gens qui viennent me voir, c'est des hommes cis. Et donc, j'ai plus cet enjeu-là de me dire comment je fais pour pas leur refiler les mêmes recettes en permanence de pour votre éjaculation prématurée, respirez plus profondément et comme ça, vous pourrez continuer à pénétrer aussi longtemps que vous voulez au partenaire, quoi.
Merci pour cette précision, ouais, Swan. C'est hyper intéressant et je pense qu'il y aurait plein de trucs à dire. Et moi, je sais que sur les 8 ans d'accompagnement là, que j'ai pu avoir, on va dire qu'il y a une bonne grosse moitié où j'ai pas du tout posé le mot féministe pendant des années. Ce n'était pas du tout présent. Au contraire de Camille, voilà, où ça a toujours été là en fait dès le départ. Moi, c'est vrai que ça n'a pas été là. Enfin, ça n'a pas été là, on va dire officiellement. Bien sûr que officieusement, enfin, je veux dire. Pour mon TP de troisième au collège ou ici je sais plus quand on le fait, j'ai fait sur le droit à l'avortement. Donc vous voyez, c'est bon. Mais de là à dire que j'étais féministe, moi c'était vraiment dans mon paradigme, c'était normal quoi. C'était présent. Donc c'était pas posé, c'était pas dit, mais c'était quand même là. Faut quand même savoir que moi pendant toutes ces années-là et même encore aujourd'hui, moi j'accompagne beaucoup d'hommes cis. Mine de rien, je ne sais moins quand même c'est durant ces dernières années parce qu'il y a eu beaucoup de switch dans ma pratique et surtout dans mon agenda, parce que j'accompagne énormément maintenant des professionnels de l'accompagnement. Mais en gros, pendant des années, bizarrement, quand justement j'ai changé avec des consoeurs, moi, j'ai accompagné en fait beaucoup plus en fait d'hommes cis que mes consoeurs, quoi. Et ça m'allait très bien pendant des années. Et pareil, c'était ce côté de saupoudrage. Tu parlais aussi de cette ficelle, soit de tenir la ficelle, de pas dire non, voilà. Et même ce que Camille, tu disais tout à l'heure, que tu préfères que ça soit des personnes qui aillent quand même voir des accompagnantes féministes ou en tout cas des accompagnantes qui sont sensibles justement à toutes ces thématiques-là plutôt que des accompagnants en fait masculins. On est bien d'accord. Et c'est juste à un moment donné en fait dans ma pratique, j'ai senti que il y avait un autre cycle qui avait besoin en fait une autre évolution, que finalement l'énergie n'était plus là, l'envie n'était plus la même et surtout je crois que même avant tout ça, c'était que j'avais d'autres projets. En fait, c'est vraiment j'ai eu d'autres projets, d'autres envies. Et que je peux pas être partout, et qu'il faut que je choisisse par conséquent comment j'organise tout ça, et ça passe par ce qu'on va dire le management de l'énergie, et que c'est vrai que mine de rien ces séances-là, comparées en fait à des séances avec des personnes où tout est déjà posé, tout est très clair, et que ma parole en fait elle est très située, ces séances où ma parole est très située et que les choses sont en toute transparence, elles me coûtent beaucoup moins en fait en énergie par rapport à d'autres où il faut que je tienne la ficelle et il faut que je saupoudre. Faut savoir en plus que même dans le privé, je suis pas la personne la plus fine du monde. Voilà, donc ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Et donc voilà, il y a un moment donné, j'avais d'autres projets. Et donc la période saupoudrage et ficelle, elle était terminée, quoi. Et donc je suis allée en fait sur d'autres choses. Et donc ça a été vraiment d'ailleurs même tout un travail de questionnement sur comment je revendique, comment je m'approprie en fait cet homme féministe qui n'est pas parfait d'ailleurs, qui ne vous raconte pas vraiment toute la réalité. De notre positionnement, je pense à toutes les quatre, parce que il y a on parle dans le, là quand je dis ça, je parle de féminisme intersectionnel, il faudrait vraiment le préciser, il faudrait en fait regarder quand on parle des différentes oppressions systémiques, voilà, le féminisme en est une autre, enfin le sexisme en est une autre, en est une, mais il y en a beaucoup beaucoup d'autres, bref, tout ça pour dire que oui, il y a eu ce travail-là que j'ai dû faire sur comment je posais ça. Et c'est pas forcément une façon de se revendiquer en fait féministe, c'est que je le suis. Donc à un moment donné, c'est je pose en toute transparence qui je suis pour que les personnes puissent choisir en conscience si elles sont OK ou pas en fait ce que je les accompagne. Et en plus, moi, il y a eu tout ce travail-là où à un moment donné aussi, j'ai pris conscience que j'étais arrivée dans une période de ma vie d'accompagnante où j'avais aussi envie de choisir les personnes que j'accompagnais. Un peu plus, en tout cas, qu'avant. Et donc, c'est vraiment l'enjeu de la première rencontre quand j'accompagne des personnes. C'est une vraie rencontre. Et à la fin, moi, je pose toujours la question de est-ce que, du coup, c'est OK? Et moi, je le pose aussi, en fait, est-ce que c'est OK pour moi que j'accompagne la personne? Et si j'ai des conditions à poser, et si la personne a des conditions à poser, on en parle. Voilà, c'est vraiment une notion, quand je dis conditions, je dis besoin, je parle de besoin, d'attente qui sont posées, qui sont vraiment un travail en toute transparence. Voilà, c'est pour te donner un peu aussi cette évolution que moi, j'ai pu avoir. Mais c'est vrai que toi, en lien quand même avec ta pratique, c'est quand même assez particulier puisque tu es sexologue. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant un jour, si tu évolues là-dessus, que je sais pas, que t'écrives, t'en parles, parce que ça peut être hyper, hyper intéressant. Comment tu te sens avec tout ça?
Merci beaucoup. Non, bah, ça répond très bien au doute que j'avais. Enfin, je pense qu'il en reste toujours, mais en vous entendant, je me rends compte que, en tout cas, moi, je me sens assez à l'aise aujourd'hui de justement d'être à cette place, comme tu disais, de je suis peut-être pas à mes yeux assez visible, et je vais trouver un moyen de être plus visible pour les personnes qui veulent en fait cet accompagnement-là, et qu'il faut qu'elles sachent que je suis là, mais qu'en fait ça m'intéresse vraiment de travailler avec des gens qui n'ont pas du tout ces mots-là et ces séries d'analyse pour l'instant, et que moi j'ai envie de faire partie de ceux qui sont un peu, qui jouent avec la marge, quoi. Et enfin, voilà, ça me plaît d'être à cet endroit-là.
Trop bien. Top. Tu vois, je le fais que ta dernière phrase que tu prononces, c'est ça me plaît d'être à cet endroit-là. Ça résonne énormément avec ce qu'Aurélie a dit, la notre équipe. Et moi, je rejoins totalement Aurélie. Moi, c'est vraiment un critère aujourd'hui hyper important. Quand j'ai dit j'avais d'autres projets, moi, je suis vraiment dans un cycle où j'ai des projets, où je vis pour des projets qui me font vraiment kiffer. Donc, si toi, ça te plaît, bah, ça te plaît, quoi. Et puis, basta, quoi. Comme disait, en fait, Camille, pas d'un nom que je suis.
Merci beaucoup, hein, pour
tout. Avec grand, grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Gab? Je vois que tu rallumes ta caméra.
Ouais, moi, je crois que c'est surtout un grand merci. Il y a plein de choses qui ont popé. Alors, moi, je suis photographe. Du coup, je me considère comme accompagnante parce que, bah, pareil, l'image de soi... voilà, il y aurait énormément de choses à dire aussi autour de l'image de soi. Donc, même si je me suis nichée en tant que photographe pour les entrepreneureuses, derrière, il y a quand même l'humaine qui vient avec son bagage. Et donc, je me considère quand même vraiment comme accompagnante, et je vois vraiment le shooting comme une co-création. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont beaucoup résonné en moi dans tous vos partages, que vraiment j'ai trouvé ces échanges hyper riches. Et notamment, je voulais vous remercier parce que il y a plein de moments où vous avez partagé un peu vos visions et vos rêves. Et je trouve qu'en fait, ça ouvre vraiment le champ des possibles. Et il y a une phrase qui a été partagée par Tiffaine à la fin, où elle disait, du coup, c'est un espace d'échange qui se transforme en un espace d'organisation. Et ça, j'ai trouvé ça hyper puissant parce que moi, je me questionne justement en ce moment sur la solitude dans l'entrepreneuriat, et sur le fait que moi, je vis en milieu rural. Et du coup, à chaque fois que je veux aller voir d'autres entrepreneureuses, il faut que je prenne le train, que je monte en ville. Et du coup, là où il y a des séminaires, etc. Et en fait, j'ai de plus en plus envie de créer quelque chose autour de chez moi, donc vraiment dans un milieu très rural, mais je ne sais pas encore trop comment m'y prendre. Et je sens que j'ai besoin de voir les gens en vrai. Du coup, le visio, mais en même temps, je trouve ça trop beau aussi ce que vous avez réussi à co-créer ensemble. Et le fait que j'ai l'impression, en tout cas, quand Elsa t'a commencé à parler de livres, d'espaces de formation, que vraiment c'est venu répondre à vos besoins de plus être seule face à ces questionnements-là. Mais que, en plus, c'est en train de vous embarquer dans quelque chose où, en fait, vous osez rêver et vous osez vous dire, en fait, ensemble, on peut le faire, et ensemble, on peut changer des choses. Et juste, c'est hyper inspirant. Donc, grand, grand merci pour nous avoir ouvert les portes de ces échanges que vous avez eus pendant un an. Je trouve ça hyper précieux, et ça vient semer plein de graines en moi, même si je ne suis pas accompagnante par l'hypnose. Donc, un grand, grand merci.
Bah, avec grand plaisir. Je pense qu'on peut remercier Camille.
Bah, merci à vous d'avoir répondu à l'appel aussi, quoi. Parce que sinon, toute seule, ça aurait été vachement plus compliqué.
Et tu vois, Gab, à ce que tu dis par rapport à la vision, que finalement, on est entraîné par ça et tout, ça, c'est... Je vous donne rendez-vous si vous n'êtes pas inscrite à la table ronde avec Estelle Niana et Aurore Kenis sur justement incarner sa vision. Et si vous n'avez pas l'occasion d'être présente, je vous balance juste une des punchlines en fait que Estelle a récemment prononcée dans un de ses espaces à elle. Moi qui m'a beaucoup touchée, elle dit en fait si on n'est pas dépassé par notre vision, c'est que c'est pas la bonne. Donc, tu vois, un truc voilà, qui peut être entraînant, qui peut être en route. On ne sait pas comment commencer, on ne sait pas comment... Ben, c'est le bon chemin, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc je pose ça là, je ne sais pas si ça te parle, Gab.
Ouais, ça me parle de fou. Notamment, dernièrement, je suis allée à un événement qui était l'entrepreneuriat as usual, peut-il continuer ainsi malgré tout ce qui se passe autour? Et justement, l'une des conférences, c'était vraiment sur ça, sur le fait que on s'autorise peu finalement à imaginer d'autres possibles. Et du coup, toi, tu parlais de joie. Et en fait, je voyais cette joie entre vous, c'est-à-dire que oui, on parle des choses dures et oui, on a conscience de ce qui se passe et on est ancré dedans et en même temps, bah, on s'autorise à voir plus grand et voir au-delà. Et je trouve que vous incarnez vraiment ça, donc vraiment, encore une fois, merci.
trop bien. Merci à toi, merci de le dire. On arrive sur la toute fin de cette session. Vraiment un grand merci pour votre présence, merci en fait à votre participation, merci aussi à Aurélie, Tiffaine et Camille d'avoir dit oui à cette idée de créer une table ronde qui en plus sera en direct et qui en plus sera enregistrée. Donc merci beaucoup et c'était génial. J'espère que voilà, ça va pouvoir vous inspirer et puis vous permettre aussi de cheminer chacune et chacun de votre côté. Et puis, de toute façon, on reste disponible, je pense, pour pouvoir échanger si vous avez envie de prendre contact avec l'une et l'autre. Vous avez de toute manière nos Instagram qui seront mis voilà, dans la description de l'épisode et puis qui sont en description, sinon, de toute manière, de l'événement. Donc, un grand merci. Je vais laisser peut-être Aurélie, Camille, quand même, Tiffaine, me faire un petit coucou de fin. Et puis, voilà, moi, c'est bon pour moi. Et donc, belle continuation et merci encore.
Et ben, moi, je vais juste dire merci et vivement la suite.
Moi aussi, un grand merci. Et j'ai juste envie de dire que je suis trop contente parce que je me disais, oh, ça me demandait de l'énergie de me dire de, je sais pas, de préparer ce moment. Ou je me disais, ah, est-ce que ça va me vider? Et en fait, ça m'a juste donné énormément d'énergie. Donc, je suis trop contente. Donc, merci à tout le monde.
Sans surprise, merci à tout le monde aussi. J'ai été hyper émue à plein de moments dans nos échanges. En fait, je crois que c'est quelque chose sur lequel j'avais pas mis le doigt, la force du groupe qu'on a créé. Et en fait, de vous entendre y réagir et de nous entendre parler, en fait, je me dis, ah, mais genre si, je sais pas, la Delphité, ça devait se mettre en action, ce serait ça, quoi. C'est vraiment ce moment-là qu'on a vécu. Et je me sens beaucoup d'amour, en fait. Donc, ouais, je suis hyper, hyper touchée et émue. Et puis merci pour vos questions parce que c'était trop bien de me permettre de creuser certains sujets ou vos remarques. Il y a eu un moment où je me suis dit mais est-ce que ça les intéresse ce qu'on est en train de se dire en fait, et du coup ça m'a rassurée de me dire que oui, vous y avez trouvé des infos, des trucs avec lesquels repartir. Donc trop chouette, merci pour ce moment. Et comme Tiffaine, je repars pleine d'énergie. Voilà, vive le collectif et vive les lobby work.
Et voilà la team de Turfu, c'est tout pour cet épisode d'accompagnante. J'espère que vous avez kiffé autant que moi et que vous repartez avec votre dose de power. Rappelez-vous, accompagnante, c'est un podcast et c'est aussi un espace, une communauté qui a besoin de votre force pour grandir. Alors pensez bien à vous abonner au podcast et à laisser une note et un avis sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est totalement gratuit, mais votre soutien n'a pas de prix pour moi, alors vraiment merci. Merci en fait de prendre ce temps-là. Et si vous voulez soutenir Accompagnante par le pouvoir de l'argent, vous pouvez le faire via un don libre, c'est totalement possible. Je vous mets le lien de la cagnotte en description. Et d'ailleurs, en description, vous pouvez aussi retrouver toutes les ressources mentionnées dans l'épisode. Et pour aller plus loin, c'est sur mon site internet, elsacoutillier.com. La team, si vous avez aussi envie de partager vos tilts concernant l'épisode, si vous avez des questions, des idées de sujets ou des invités que vous aimeriez entendre dans de futurs épisodes, vous pouvez me contacter sur Instagram à @elsacoutillier. En attendant, continuez à repolitiser votre pratique d'accompagnement et à être les véritables révoltés dont le monde d'aujourd'hui a besoin. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'accompagnante. Je vous dis à plus dans le bus de la révolution et prenez bien soin de vous.
L'objectif est de repolitiser votre chemin d'accompagnement et changer les
mots. Un projet pour monter le volume ensemble.
On va donc déconstruire les normes.
Et je veux que ça change.